Bien, bonjour. J'ai le plaisir de, nous avons le plaisir de recevoir Michel Kobik, qui va nous parler de son dernier livre, Il les aima jusqu'au bout. Bon, ce livre qui a été publié cette année, en 2011. Voilà, début 2011. Et le second livre de Michel Kobik, le premier, est paru en 2009, Rencontre sur les chemins de l'évangile de Jean. Donc Michel Kobik nous fait l'amitié de venir parler de Il les aima jusqu'au bout. Bon, il est jésuite, il a une formation de lettres classiques, une formation de théologie. Il a commis une thèse sur le symbole dans la Bible, dont il est familier donc depuis longtemps. Comme les jésuites en général, il a cheminé un peu partout en France et occupé des postes assez divers. Bon, il a été professeur, bon, directeur des études, notamment ici à Bordeaux, à Tivoli. Il a commencé sa carrière à Lyon, et puis ensuite à Amiens, à Bordeaux pendant 5 ans, et puis à Reims, à Clamart, à Nancy. Bon, il est également engagé dans l'accompagnement des exercices spirituels, qu'il prépare évidemment par des lectures. Bon, il vient nous parler donc de son dernier livre, qui est le résultat de rencontres. La rencontre de Michel avec la Bible, avec Saint Jean, avec des textes, donc une rencontre, des rencontres un peu solitaires, hein, d'études. Et puis ces textes, après, il les fait partager. Et il les fait partager, et il nous a fait partager à quelques-uns dans des groupes de lecture qui sont autant de rencontres entre amis et avec des textes. Donc le livre est un peu, pour une part, le résultat de ces rencontres-là. Et puis aussi, il est l'effet d'une rencontre plus singulière avec l'un d'entre nous dans ce petit groupe qui a produit au fond ces livres. Et bon, il vous en parlera. Hein. Il nous parlera donc de ce dernier livre, peut-être un peu du premier aussi, et puis de sa démarche. Voilà, donc avant de lui céder la parole, je voudrais remercier la librairie Mola.
Eh bien, merci beaucoup. Yves est un vieux compagnon que j'ai connu lorsque j'étais à Bordeaux, à Tivoli. Et puis, il fait partie de ses amis qui lisent la Bible tous les ans, depuis une vingtaine d'années maintenant. Nous lisons ensemble quelques textes bibliques. Alors Yves en fait partie, et c'est à ce titre-là que j'étais content qu'il puisse présenter mon arrivée. Nous allons passer, si vous en avez assez, vous pouvez partir avant. mais ce qui est prévu, c'est qu'on ait une heure et demie ensemble. Alors, je pensais l'organiser ce temps de la manière suivante, c'est-à-dire introduire, parler un peu de ces rencontres que vient d'évoquer Yves, qui ont donné naissance à ce livre-là, et puis parler un peu de ce qu'on peut y trouver, voilà, pourquoi j'ai écrit ce livre, donner quelques exemples, enfin voilà, parler du livre, quoi, voilà, pendant quelques temps, et puis ensuite vous laissez la possibilité de poser des questions, de sorte que ensuite, sachant qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, mais il n'y a que les réponses qui sont indiscrètes. Alors, si la réponse est indiscrète, je ne vous la donnerai pas. Je prendrai la question, mais je ne vous donnerai pas la réponse. Voilà. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. C'est à moi de décider si j'y réponds ou pas. Donc voilà, je vous propose ceci. Hein. En gros, 3 quarts d'heure, on verra, 3 quarts d'heure de parole de ma part, et puis ensuite, une demi-heure, 3 quarts d'heure de parole de ma part, et puis ensuite, vous posez vos questions si vous en avez, je réponds, et on termine tranquillement dans 1 heure et demie. Voilà.
Voilà. Il m'a dit que vous pouviez poser des questions sur son livre, bien sûr, hein, il vient présenter son livre, mais il est prêt à répondre aux questions sur les jésuites. Vous savez, quand on évoque le mot jésuite, il y a tout un tas de fantasmes qui naissent dans les têtes. Bon, et puis d'un autre côté, quand on travaille avec eux, ils sont toujours très discrets sur ce qu'ils sont. Bon, et c'est 29 ans de présence dans un établissement jésuite qui me permet de faire cette dernière remarque. Et donc, il m'a dit que les questions concernant les jésuites, puisqu'on en tient un ici à la librairie Mola, ben, ma foi, après tout, pourquoi pas.
Voilà. Voilà, pour introduire cette affaire. Pendant ce temps-là, je continue de voir arriver des amis, tout ça, alors je leur dis bonjour aux uns et aux autres. C'est quand même d'abord au titre de l'amitié que je suis là, quand même. C'est-à-dire, c'est vraiment ça qui a donné naissance à ce livre, et au précédent aussi. Le projet d'écriture, comme on dit, c'est né de ce groupe de lecture biblique. Voilà. Un groupe d'amis, parce que on a travaillé ensemble, on a traversé pour certains quelques épreuves ensemble, enfin, et de là est née l'idée, pour ma part, qui était de partager cette rencontre que j'ai eue avec la Bible à un moment donné, et qui a laissé derrière beaucoup d'autres choses, quoi. Ma rencontre avec la Bible, avec le texte biblique, avec la parole de Dieu dans la Bible, avec la vie que ça a ouvert en moi, cette rencontre-là, j'ai désiré la partager avec des amis. Voilà. Parce que je crois que la Bible ne se lit pas en dehors d'une rencontre humaine. C'est pas un texte. Alors évidemment, on peut le traiter de manière universitaire, de manière scientifique, et il faut le faire, et c'est bien de le faire. Mais c'est quand même d'abord un livre de rencontre humaine, parce que c'est dans la rencontre humaine que l'on peut rencontrer Dieu. On peut pas rencontrer Dieu ailleurs que dans une rencontre entre humains, entre semblables dans l'humanité. Et donc c'est quelque chose de cet ordre-là que j'ai souhaité pouvoir partager. Alors, au fil des années, donc chaque fois en vacances, autour du 15 août, dans une grange, dans les Pyrénées, pendant quelques jours, j'apportais des textes que j'avais travaillés précédemment, et puis je les offrais à la lecture, un partage de lecture. Et à partir de là, les réactions des uns et des autres enrichissaient mon propre travail, ce qui fait que je me retrouvais avec un matériel assez important que j'utilisais dans des sessions, dans des articles, dans des occasions de ce genre-là. Et puis, un jour... j'ai réussi à avoir un peu de repos, c'est-à-dire du temps, quoi, disons du temps où j'étais pas en charge d'une communauté, d'une institution, et je me suis dit, ça faisait un moment déjà que les uns et les autres me disaient, mais enfin, tu devrais écrire, pourquoi t'écris pas, et bon. Alors, finalement. Ayant du temps et me souvenant, touché par une rencontre qu'on avait faite dans le cadre de ces groupes de lecture, par la parole qui avait été dite par l'un d'entre nous, ça a déclenché en moi l'idée de dire si le texte biblique, le texte évangélique déclenche une telle libération de la parole et du cœur, ça vaut la peine d'essayer de mettre par écrit les chemins d'une libération de la parole de ce type-là, quoi. Voilà. Alors ça m'a donné l'idée. L'idée, je l'avais, puis on me la mettait dans l'oreille suffisamment, mais je passais pas à l'acte, quoi. Et ayant du temps, repensant à cette rencontre, repensant à ses amis, je me suis dit, ben, je vais, voilà, j'ai du temps, je m'y mets, quoi. Allez. Alors, d'abord, j'ai cru que c'était facile, parce que j'avais comme beaucoup de matériel, et donc je me suis dit, ben, il suffit de recopier les notes que j'ai, et puis ça fera un livre, quoi. Et puis, en fait, c'est pas du tout pareil, c'est un autre travail de mettre par écrit ce qui a été partagé oralement. Bon, je voulais pas non plus alourdir, enfin, le livre, c'est le résultat des analyses précédentes, c'est-à-dire, je ne fais pas état dans le livre de tout le travail d'analyse technique préalable, je donne le résultat, parce que si je donnais toutes les procédures analytiques, ça n'en finirait pas, ça serait insupportable, ça serait illisible, il n'y a que des universitaires pour apprécier ce genre de travail. Bon, voilà. Mais j'écrivais pas pour des universitaires, voilà. J'écrivais pour des gens que j'aime. Voilà. Et donc, ce n'est pas pareil. Mais en même temps, je voulais que ça soit solide comme type d'écriture et que ça puisse être partagé par d'autres. Donc, voilà. Je me suis mis à écrire un premier livre, puis un deuxième, et c'est celui-là. L'autre ligne qui a conduit à cette écriture, c'est l'expérience d'accompagner des gens dans leur vie spirituelle à l'occasion de l'expérience qu'ils font en vivant les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Et alors, là, j'ai réalisé que l'importance d'un contact direct avec le texte biblique, avec le texte évangélique, avec la parole de Dieu, voilà, un contact direct. Parce que c'est ça qui permet l'expérience spirituelle. C'est-à-dire mettre les gens à plonger dans le texte comme on plonge dans une piscine pour y nager et y trouver de la difficulté, mais aussi du goût et de la joie. Voilà, c'est-à-dire les mettre dans le texte comme on se met dans l'eau, quoi, par exemple, pour donner une image. Mais alors j'ai trouvé que ça pouvait aider aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire mettre des personnes qui sont pas complètement ignorantes de l'Évangile, mais qui sont pas non plus des spécialistes, exégètes, voilà, leur donner les moyens d'avoir un contact, d'être un peu guidés dans cette rencontre avec l'Évangile. Alors les deux lignes se sont recoupées, c'est-à-dire la ligne de l'amitié et la ligne d'offrir ça à d'autres, bon, de manière accessible. Et alors l'éditeur m'a donné, enfin non, c'est pas l'éditeur, il a bien validé cette proposition. Mais c'est une amie, voilà, une des amies qui est dans le groupe de lecture, à qui je présentais les premiers textes, les premières rédactions, et qui me dit, toi, ce qui serait bien, ça serait qu'on ait d'un côté la page d'Évangile et de l'autre le texte que tu écris, de telle sorte que on n'ait pas besoin d'avoir, quand on lit ce que tu écris, une grosse Bible et à tourner les pages et à chercher sans arrêt les références que tu donnes. Un mouvement des yeux, on passe d'une page à l'autre et on voit d'où on en est. Et deuxièmement, ça permettrait de vérifier que ce que tu dis, tu ne l'inventes pas, c'est dans le texte. On peut le trouver dans le texte. Ce n'est pas une pure production de l'esprit de Michel Kobic, aussi fertile soit-il. Et donc, c'est pour ça qu'on a adopté cette présentation, d'avoir sur une page le texte de l'Évangile et sur l'autre le texte que j'écris, qui aide à lire la page qui est en face. Voilà. Alors l'éditeur a trouvé le concept, comme on dit, intéressant, et donc il l'a retenu, et c'est comme ça qu'on a présenté ce livre. Donc, ce livre-là, il a pour objectif de faire rentrer dans une expérience de lecture. De lecture guidée au sens où, quand on visite un monument, il y a un guide qui attire notre attention sur tel aspect, dire « regardez cette statue », bon, voilà. Il attire notre attention sur tel aspect intéressant que nous, on n'aurait pas vu si on passait trop vite. Alors c'est dans ce sens-là qu'elle est guidée. Elle n'est pas guidée au sens « voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il faut croire, voilà ce qu'il faut entendre ». Elle est guidée dans le sens « voilà une chose intéressante qui peut vous aider à ouvrir votre cœur et votre esprit au texte qui est présenté là ». Voilà. Elle est guidée dans, vraiment dans le sens de, voilà, regardez de ce côté-là, peut-être vous y trouverez quelque chose d'intéressant à creuser pour vous-même et en approfondissant. Donc, évidemment, ça ne dit pas tout. Voilà, ce ne sont pas des livres qui disent tout sur le texte, mais qui présentent un itinéraire de lecture qu'on peut ensuite prolonger, qu'on peut ensuite partager avec d'autres, qui peut nourrir la réflexion personnelle, qui peut être un support pour la prière personnelle. C'est une lecture guidée, voilà, mais qui guide dans une, qui oriente la lecture dans une dimension spirituelle, voilà, dans une dimension de rencontre intime avec celui qui parle dans ces textes. C'est-à-dire pas moi, mais celui qui est à l'origine de ces textes, c'est-à-dire le Christ, quoi, c'est-à-dire Dieu. Voilà. Ça met en contact avec celui qui s'exprime dans ces textes, à travers des paroles humaines, évidemment, et à travers des paroles, des expériences humaines qui sont racontées. Mais c'est le contact, c'est avec lui qui s'établit. Voilà. Alors voilà, c'était un petit peu tout ça, l'expérience des exercices spirituels, de ce qui se passe dans quand on accompagne des gens dans cette expérience et qu'on les met en contact avec le texte de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça produit en eux comme cheminement intérieur. Et je me suis dit, ça, ces paroles-là, ces textes-là, ça vaut la peine de les présenter d'une manière un peu différente de celle qui est faite habituellement dans les homélies ou dans les livres scientifiques ou dans les livres... Bon, voilà. C'est autre chose, c'est un autre type de lecture. Comme je dis dans la présentation de celui-ci, du deuxième, je dis, c'est écouter ces textes un peu comme on écoute, en prenant le temps... On écoute une personne âgée, une personne malade, un enfant, un ami, voilà. On prend son temps pour écouter ce qu'il dit, pour faire attention à ce qu'il dit, et le rencontrer intimement, en profondeur, et pas seulement rapidement, voilà. Donc, ça prend du temps de lire un livre comme ça, parce que ça fait rencontrer quelqu'un. Et plus que ça, ça finit par faire rencontrer notre propre histoire. C'est-à-dire qu'évidemment... À l'évocation en lisant ces pages-là, nécessairement, il y a des visages qui nous viennent. On reconnaît tel ou tel personnage de l'Évangile. Tiens, il me fait penser à un tel. Et ça fait revenir en nous des pans entiers de notre histoire personnelle. Ça fait poser des questions sur des événements et des rencontres qu'on est déjà en train de vivre, qu'on a vécu, qu'on prépare. Voilà. Ça finit par... par nous entraîner là où on ne pensait pas qu'on allait être entraîné. Voilà. Ça finit par nous faire rencontrer quelqu'un à l'intérieur de nous, quoi. Voilà. Alors, voilà, dans ce que j'essayais de faire avec ce travail, donc, le point de départ, c'est ça, c'est l'amitié, c'est vouloir partager une expérience personnelle de lecture, de rencontre spirituelle, l'ouvrir au plus grand nombre possible, le présenter de manière accessible, et voilà. Et c'est essentiellement ça qui a été le point de départ le projet d'écriture de ces livres-là, voilà, des deux, celui-là et l'autre. Il y a une chose que je voudrais signaler à cet endroit-là, c'est que pour bien profiter d'une lecture de ce genre, déjà j'ai dit il faut prendre du temps. Il faut accepter de prendre du temps comme on prend du temps pour parler avec quelqu'un, voilà, pour l'écouter. D'abord l'écouter, voilà. Puis parler après, mais d'abord l'écouter. C'est-à-dire que la rédaction de ces livres-là, ça a d'abord été une écoute longue du texte, hein, c'est-à-dire analyser le texte par les procédures d'analyse de la rhétorique biblique, etc., ou d'autres choses. Tout ce travail-là, c'est écouter le texte aussi. C'est lui faire honneur, quoi. Je veux dire, c'est le respecter, c'est le prendre en compte. C'est pas projeter dessus ce que je voudrais qu'il me dise. Voilà. mais ça prend du temps. Et donc, l'écouter pour ensuite écrire, moi, ce que j'ai envie d'écrire dessus. Vous voyez, il y a un délai, quoi. Il y a un délai dans la rencontre avec l'Évangile. Il y a avec la Bible, quoi, mais particulièrement avec l'Évangile de Saint Jean, quoi. Il y a un délai. Il ne faut pas vouloir tout comprendre tout de suite. Il ne faut pas vouloir tout sentir tout de suite. Il faut y aller lentement, avec patience. Voilà. Et demeurer là, dans... Alors ça, c'est pour les jésuites, puisque j'en suis un, l'expérience spirituelle, ça consiste d'abord à prendre son temps et à demeurer là où nous recevons quelque chose qui nous aide à vivre. D'abord, demeurer là et tirer profit de ce qu'on reçoit, d'une émotion, d'une image, d'une compréhension nouvelle, d'un silence. Demeurer et tirer profit de ce qu'on reçoit. Voilà. Alors, ça donne place à vraiment ce qu'est la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu, ce n'est pas un discours télé, ce n'est pas un discours radiophonique, ce n'est pas un discours portable. C'est un discours qu'on n'entend pas d'abord, parce qu'il est intime, il est intérieur. C'est une parole qu'on doit prendre le temps de laisser monter en nous pour qu'elle nous habite et que nous l'habitions, que nous soyons en relation avec elle. Ça prend du temps, voilà. Autrement dit, ce n'est pas un livre qu'on lit comme un polar. Voilà. Voilà pour le projet de lecture. Après, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Bon. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre-là ? Eh bien, comment Saint Jean raconte la passion et la résurrection ? C'est un récit, c'est une histoire que Saint Jean raconte. Il la raconte pour d'autres, voilà, pour nous. Voilà. Et donc, nous pouvons rejoindre la démarche de Saint Jean quand nous lisons ça. C'est-à-dire, on peut entrer dans l'histoire qu'il nous raconte et essayer d'entrer dans ce qu'il a vécu, lui. Voilà, en tout cas, c'est comme ça. Alors, l'avantage de Saint Jean, c'est que c'est un type. Il écrit son évangile, le dernier. Les trois autres, Matthieu, Luc et Marc, Matthieu, Marc et Luc, bon voilà, ils ont été écrits avant. Quand Saint Jean écrit le sien, il connaît les trois autres. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il considère comme déjà connues de ses lecteurs et qu'il ne reprend pas. L'exemple le plus massif, encore qu'il puisse y avoir d'autres raisons pour ça, mais l'exemple le plus massif, c'est qu'on ne trouve pas dans l'évangile de Saint Jean le récit de l'institution de l'Eucharistie, ce qui est repris à la messe quand Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Bon, voilà. Et bien ça, on ne le trouve pas dans Saint Jean. Alors, une des hypothèses d'interprétation, c'est de dire, comme les autres l'avaient raconté, Saint Jean, il a estimé que ce n'était pas la peine qu'il le raconte lui, parce que les autres le connaissaient, tout le monde le savait, quoi. Bon, mais surtout, il raconte autre chose. Au même endroit, il raconte l'histoire, au chapitre 13, du lavement des pieds. Et il le situe dans un cadre chronologique qui est le même que celui de l'institution de l'Eucharistie. Autrement dit, on peut dire que le chapitre 13 de Saint Jean, qui raconte comment Jésus lave les pieds de ses disciples, vient chez Saint Jean à la même place que le récit de l'institution de l'Eucharistie. Autrement dit, ça a le même sens, ça dit la même chose. En tout cas, il y a le même message à entendre d'un côté et de l'autre. Alors ça, c'est intéressant de repérer ça. Voilà. Donc Saint Jean, il raconte des choses que d'autres n'ont pas racontées. Et puis, il ne raconte pas des choses que d'autres ont racontées. Mais en plus de ça, il est repéré comme un des évangélistes qui est assez précis sur des détails dont on peut prouver, si on veut chercher à le faire, dont on peut prouver l'exactitude historique. Voilà. On repère que c'est quelqu'un qui, plus que d'autres, à certains endroits, il est plus précis dans l'exactitude du récit et dans l'exactitude historique des éléments du récit. Mais surtout encore, c'est quelqu'un qui a réfléchi intérieurement, qui a fait une expérience spirituelle réelle. Et c'est de ça qu'il... Finalement, c'est à partir de là qu'il écrit son évangile. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a une élaboration, alors à la fois théologique, mais surtout de profondeur spirituelle qui est vraiment, vraiment, vraiment impressionnante, quoi. Voilà. Cet homme, alors Saint Jean, est-ce que c'est lui qui a écrit vraiment l'évangile? On ne sait pas trop bien, mais en tout cas, l'homme qui a écrit, le rédacteur final, comme on dit, du texte, celui qui a finalement mis la touche finale au texte de l'évangile de Jean tel qu'il nous est parvenu, c'est un homme qui avait une expérience spirituelle et qui avait réfléchi dessus et qui avait trouvé les mots pour en parler. Voilà. Vous savez, Thérèse d'Avila, elle disait, concernant ce que Dieu, les dons de Dieu, les grâces de Dieu, comme on dit aussi, il y a trois niveaux au moins. Il y a recevoir un don de Dieu, ça c'est le premier niveau. Savoir qu'on l'a reçu, parce qu'on peut recevoir un don de Dieu sans savoir qu'on l'a reçu, ça c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, c'est savoir en parler, c'est-à-dire savoir le partager. Alors il y a des gens, on a tous reçu un don de Dieu, mais on ne sait pas forcément tous qu'on a reçu ce don-là. Et puis en plus de ça, on ne sait pas forcément tous parler de ce don qu'on sait qu'on a reçu. Alors Saint Jean, c'est l'homme qui a reçu un don, qui sait qu'il l'a reçu et qui sait le partager. Voilà. Alors c'est ça qu'on trouve, c'est pour ça que Saint Jean est une source très très importante dans la littérature chrétienne, spirituelle et théologique, quoi. Voilà. C'est un homme d'une grande intelligence et d'une grande culture, voilà. Et il y a une rigueur dans le texte de Saint Jean qui est absolument extraordinaire. Il n'y a pas un mot qui est mis là au hasard. Il y a une maîtrise de l'écriture, du texte, du rythme des textes, absolument extraordinaire. Alors, autrement dit, c'est une des choses que j'ai essayé de montrer dans le travail que j'ai fait. C'est d'essayer de montrer, c'est ça ma manière de guider dans le texte, ça a été essayer de montrer, vous savez, ce mot-là, pas la librairie, ce mot-là, voilà. C'est très important parce qu'on le retrouve ici, ici, ici. Par exemple, au début, au milieu et à la fin. Or, dans la rhétorique biblique, il y a trois positions majeures quand on veut dire, quand on veut faire passer son message. C'est le début, parce que les gens sont encore attentifs. Au milieu, parce qu'ils commencent à s'endormir, alors on rappelle que c'est important, et à la fin, parce que c'est la fin, c'est avec ça que vous devez partir. Et les curés feraient bien de s'inspirer de ça pour leurs homélies. Hein. On dit au début, au milieu, à la fin. Voilà. Alors Saint Jean, dans la rhétorique biblique, qui la maîtrise parfaitement, forcément, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, on peut montrer dans un texte comment le mot qu'il choisit de mettre à cet endroit-là, c'est parce que c'est un mot qui porte une signification pour dire son message, qui est un mot très important, quoi. Alors, on va le retrouver au milieu, et puis à la fin de l'unité récitative qu'on a découpée, et on va voir émerger une structure absolument, absolument rigoureuse et très impressionnante. Alors, j'essaye de montrer ça dans le livre, mais évidemment, je ne peux pas m'en tenir là. C'est-à-dire, ensuite, quand on a repéré ça, il est important d'essayer de passer à l'interprétation. Qu'est-ce qu'il dit vraiment en reprenant ce mot, en choisissant ce mot-là, encore une fois, pas la librairie, on va pas recommencer, mais qu'est-ce qu'il dit exactement? Quel est le message quelle est la vérité qu'il veut nous partager. Et la vérité, ce n'est pas l'exactitude. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes constamment en train de confondre l'exactitude historique avec la vérité de la parole. Voilà. Et ce n'est pas la même chose. Voilà. C'est-à-dire, on peut dire la vérité en racontant quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Alors, Jean joue constamment là-dessus. Par exemple, un mot qu'il utilise va avoir plusieurs significations. J'en donne un exemple. Dans le récit de la Passion, il y a une scène absolument affreuse, encore qu'il n'est pas doloriste, hein, c'est pas, il n'est pas maso, il n'est pas du tout du côté de l'exaltation de la souffrance du Christ, etc. Ce n'est pas ça du tout son projet. Mais il y a une scène qui est absolument extraordinaire, c'est la rencontre entre Jésus et Pilate. Alors on voit Pilate. On voit d'abord un groupe de Juifs qui, au petit matin, après l'avoir interrogé, etc., pendant toute la nuit, ils amènent Jésus devant Pilate. Comme c'est la veille de la Pâque et qu'ils sont juifs, ils ne veulent pas rentrer dans le palais du gouverneur pour ne pas se souiller, parce que sinon, ils entrent chez les païens et du coup, ils ne pourront pas manger la Pâque le soir. Donc, ils s'arrêtent à l'extérieur, ils amènent Jésus et ils le livrent à Pilate. Bon. Et puis, alors, il y a toute une série de... Pilate entre, il sort, il rentre, il ressort, etc. Il n'arrive pas à décider, alors qu'il a bien, il a rien comme motif d'accusation contre Jésus, mais ça fait rien. Il est manipulé. Il y a toute une affaire politique là-dessous que je développe pas maintenant. Au bout du compte, il livre Jésus à ses soldats. Alors on est au centre du texte là, on est au centre du passage, en milieu. C'est la première fois que les soldats apparaissent dans ce passage, à ce moment-là, et ils vont dire une parole. Les autres paroles, c'est soit les paroles des Juifs, soit les paroles de Pilate, soit des paroles de Jésus. Et là, il y a une seule parole, qui est une parole des soldats, au moment où ils sont en train de lui taper sur la gueule et de le transformer en roi de carnaval, en lui mettant une couronne d'épines, un manteau d'un soldat romain, rouge, tout ça, et puis bon, voilà. Ils sont en train de le déguiser en roi dérisoire, quoi, bon. Et donc, ils sont en train de projeter sur lui tout ce qu'ils ne peuvent pas faire sur leur chef à eux, parce que leur chef à eux, ils se défendent. Bon, Jésus, il ne se défend pas, il dit rien, voilà. Voilà, donc, une espèce de scène qui est... qui est au bord de la folie, quoi. Voilà, où la cruauté, la violence humaine se déchaîne librement sur un type qui est innocent et qui se défend pas. Voilà. Ça, c'est les soldats. Et la seule parole qu'ils disent à ce moment-là, c'est une parole qu'on traduit habituellement « Salut, roi des Juifs ». C'est-à-dire cette espèce de manière de saluer, mais de manière dérisoire, un type qu'on a déguisé en roi et qu'on sait très bien que ce n'est pas un roi. Voilà. Salut, roi d'Égypte. Donc, un salut dérisoire, méprisant, etc. Le mot choisi en grec par Jean pour dire ça, c'est un mot que tout le monde connaît, mais qu'on voit ailleurs dans l'Évangile et dans d'autres Évangiles. Et c'est exprès qu'il choisit ce mot-là. Puis en plus, c'est le mot... qu'à l'époque, on utilisait habituellement pour dire « salut », quoi, dans la rue, quoi, « salut ». Et le mot, c'est « kairé ». Et « kairé », ça veut dire « réjouis-toi ». C'est-à-dire, c'est le mot qu'utilise l'ange quand il dit à Marie « tu vas donner naissance à un roi ».« Kairé ke caritomenes »,« réjouis-toi, Marie, pleine de grâce », etc. Eh bien, les soldats disent ça à Jésus. À ce moment-là, c'est-à-dire au moment... où, en plein cœur de la destruction de l'humanité qui est mise en scène à ce moment-là à travers la violence qui est faite à Jésus et la violence qu'ils se font à eux-mêmes en se déshumanisant eux-mêmes en traitant Jésus comme ça, ils disent « Kairé, réjouis-toi ». Ils disent ça à Jésus et ça ne peut pas ne pas faire écho à l'annonce de la naissance d'une humanité nouvelle à travers ce qui se passe. Alors, bon, et Saint Jean, il est constamment comme ça, voilà. Alors, c'est dans ma, dans mon, quand je guide les gens dans la lecture, je fais faire attention à ça. Mais attention, là, il dit un mot qui a deux sens. Puis il y en a un autre comme ça, c'est le verbe airo. Le verbe airo, c'est, on le traduit, c'est au moment, c'est un verbe qui veut dire, le sens premier, c'est soulever, élever, quoi, voilà. Voilà. Airo, je lève mon verre. Voilà. Mais avec l'intention de le faire disparaître. Hein, c'est-à-dire, on lève quelque chose, mais pour le faire disparaître. Ce qui fait que ce mot-là, ce verbe-là, il a à la fois le sens de l'élévation, c'est-à-dire au sens figuré, quoi. Je veux dire, élever quelqu'un dans les honneurs, etc., élever quelqu'un dans le ciel, etc. Mais on peut aussi l'utiliser pour dire supprimer. Et alors, quand Pilate dit aux Juifs qui sont là, « Bon, qu'est-ce que je vais faire de votre roi des Juifs, là, que vous voulez pas comme roi, etc. » Les gens, ils disent « Aïré ». C'est-à-dire, à la fois, ils disent « Supprime-le. » Alors, c'est traduit en général par « à mort ». Supprime-le, mais en même temps qu'ils disent « supprime-le », ils disent « élève-le ». Or, l'élévation, c'est ce qui se passe pour Jésus dans Saint Jean. Le mot de l'élévation, c'est le mouvement, c'est on le met sur la croix qui est couchée, on l'attache, on le cloue sur la croix, et cette croix, ensuite, on l'élève. Et donc, il est élevé de terre. Voilà. C'est le mouvement de l'élévation. La mise en croix, c'est en même temps, pour saint Jean, le mouvement de l'élévation, de l'ascension, de la résurrection, de l'ascension. Voilà. C'est un mouvement de retour au Père. Voilà. Élevé. Alors, et tout ça, quand ils disent « supprime-le, aéré, à mort », en même temps, ils disent « élève-le ». C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, comme nous, quand on dit notre foi. Voilà. On ne sait pas ce qu'on dit. Alors, c'est ça, c'est des choses comme ça que j'essaye d'indiquer en essayant de guider les gens, de faire lire le texte, dire, bah, attention, en lisant, bah, faites attention à ça, voilà. Parce qu'il y a une rigueur de la part de saint Jean qui vaut la peine d'être honoré dans notre lecture, parce que ça fait vibrer des significations multiples et en même temps ça nous tient dans quelque chose qui n'est pas n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire c'est une rigueur qui nous donne une liberté intérieure. C'est-à-dire à la fois on peut pas interpréter n'importe quoi et en même temps il y a une grande liberté qui permet de que chacun reconnaît quelque chose de sa vie, un écho de sa vie dans cette lecture-là, en lisant comme ça. Alors, donc dans ce livre, vous trouverez, mais dans le précédent aussi, je fais toujours la pub pour le premier, mais c'est d'abord celui-là. Dans ce livre, vous trouverez ça. Voilà, c'est-à-dire comment saint Jean raconte la passion et la résurrection. Avec l'indication, bah, faites attention à ceci, faites attention à cela, voilà. Et puis après ça, à vous de vous livrer librement dans votre lecture, dans votre interprétation, dans votre recherche, quoi. Moi, je lance des pistes, et puis voilà. J'ai pris le récit, la partie récit, c'est-à-dire ce que saint Jean raconte. C'est la passion et la résurrection racontées par saint Jean. Et je fais démarrer le récit. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la passion et la résurrection, quand vous prenez le livre de saint Jean, l'évangile de saint Jean, vous avez 21 chapitres. En gros, la moitié, c'est avant la passion et la résurrection. Tout ce qui se passe dans sa vie publique, comme on dit. Bon, voilà. Puis on arrive au chapitre 11. Lazare, l'ami Lazare, qui meurt, que Jésus vient ressusciter, et la résurrection de Lazare. Et ça, c'est Lazare, c'est le type qui enclenche tout le déroulement de la Passion. C'est-à-dire, à partir de l'histoire de Lazare, les Juifs, les ennemis de Jésus, faut savoir que dans Saint Jean, d'une manière générale, quand il dit les Juifs, c'est les ennemis de Jésus. Ce n'est pas tout le peuple. C'est les représentants du peuple juif, ceux qui avaient autorité pour guider le. Voilà. Donc, mais lui, il dit les Juifs en général. Bon, voilà, il faut faire attention que c'est pas. Il n'est pas antisémite, il était juif aussi. Voilà. Mais bon, ce que je veux dire là, c'est que. Les responsables juifs, les notables juifs, les scribes, les pharisiens, etc., bien, à partir de la résurrection de Lazare, c'est là qu'ils décident de tuer Jésus, quoi. Voilà. Comment on va tuer cet homme qui entraîne derrière lui une foule pareille? Bon, voilà. Bien. Et donc, à partir du chapitre 11, on commence à basculer sur l'autre moitié de l'évangile de Jean qui nous emmène sur la Passion et la résurrection. Chapitre 13, le lavement des pieds. C'est le porche d'entrée des récits de la Passion. Bon, on pourra y revenir tout à l'heure, si on veut. Puis, chapitre 14, 15, 16, 17, trois entretiens d'adieu de Jésus. Alors, c'est un genre littéraire biblique qui est très connu, c'est-à-dire un personnage important, un héros, meurt, et livre ses dernières pensées, son testament à ceux qui l'aiment. Bon, alors on a tout le livre du Deutéronome, par exemple, est construit là-dessus. C'est le Moïse qui fait ses adieux et qui donne ses dernières consignes. En gros, c'est donc ce genre littéraire de l'entretien d'adieu avant d'aller à la mort, il est bien repéré, quoi. Bon, Jean groupe là dans 14, 15, 16, 17 trois entretiens d'adieu. Et on arrive au chapitre 18, qui enchaîne exactement avec le chapitre 13, le lavement des pieds, l'arrestation, la trahison de Judas, etc. Voilà. Donc, dans le livre sur les aimants jusqu'au bout, je n'ai pas repris les entretiens d'adieu. Je prends uniquement la partie récit, le chapitre 13, le lavement des pieds, qui donne la clé de lecture de tout le reste. Je saute par-dessus les entretiens d'adieu, et je reprends la lecture du récit à partir de l'arrestation jusqu'à la fin. Voilà. Donc on trouve là, dans ce livre-là, du coup, vraiment le alors, c'est, autant le premier livre, c'était des ensembles narratifs qu'on pouvait, des rencontres de Jésus avec tel ou tel personnage qu'on trouve dans l'évangile de Jean, donc c'était la présentation de rencontres. Dans le premier livre, il n'y a pas toutes les rencontres, il n'y a pas tout, hein, c'est mais ça nous emmenait tout doucement à travers les différentes rencontres, la Samaritaine, Nicodème, etc., l'infirme à la piscine de Bethesda, ça nous emmenait petit à petit jusqu'à la rencontre avec Lazare, et puis du coup vers la Passion, quoi. Et je m'étais rendu compte en écrivant ces différents récits, en les analysant, puis en les présentant, je m'étais rendu compte que tous les personnages que rencontre Jésus dans l'évangile de Jean, là, avant le lavement des pieds, tous ces personnages, d'une certaine manière, sont convoqués au pied de la croix. Sont appelés à retrouver Jésus dans sa Passion. Ça avait frappé, d'ailleurs, l'un des amis qui est là, qui lisant ça, il m'avait dit, mais c'est marrant, tous tes personnages, ça nous tourne vers la Passion, vers la croix. Alors, en effet, tous ces personnages qu'on rencontre avant, ils sont appelés, comme chacun d'entre nous, à rencontrer le Christ dans sa souffrance et dans sa résurrection. Et alors, c'est quelque chose de ce genre-là qui... Alors, bon, autant le premier livre, du coup, on lit une histoire, on peut le lire dans le désordre, ça n'a pas tellement d'importance. Autant là, celui-là, c'est plus intéressant de le lire en continu, quoi, je veux dire, dans l'ordre, pour suivre le mouvement de la Passion et de la résurrection tel que Saint Jean les raconte. Voilà. Alors, voilà. Ce à quoi je me suis attaché, c'est le texte de Saint Jean, tel qu'il nous est parvenu en grec, rien que le texte, avec quelques références à l'Ancien Testament, une lecture actuelle, c'est-à-dire à partir du texte grec. Alors, pourquoi j'ai pris à partir du texte grec ? Parce que, d'abord, à cause de ce double sens d'un certain nombre de mots, comme j'ai évoqué tout à l'heure, et puis parce que ça permet de percevoir, de faire revenir des nuances qui disparaissent dans la traduction. Hein, ça permet Bon, c'est aussi une lecture que je fais, c'est une lecture dans la foi, forcément. C'est-à-dire, j'y crois, c'est-à-dire celui dont je parle, c'est pas un personnage de cinéma, hein. Il est en vivant, en moi, en vous, entre nous, voilà, c'est ce que je crois. Il n'y a pas de développement pieux, je ne suis pas très pieux, voilà, on me le reproche parfois, mais bon, ça m'est égal, je ne suis pas pieux. Il n'y a pas de discours moralisant, voilà, c'est pas une leçon de morale. Non, c'est pas sentimental non plus, je suis pas très sentimental, les violons, non. Mais c'est plutôt des pistes pour le cœur, mais pas le cœur en tant qu'il est le lieu sentimental. Encore qu'on peut être traversé par des sentiments quand même, je veux dire, je suis pas non plus complètement à bout de bois non plus, hein. Mais je veux dire, c'est pas le sentiment qui est la vérité, le sentiment n'est pas la vérité. Voilà. La foi, c'est pas un sentiment, voilà. C'est une expérience qui traverse le sentiment, qui y passe évidemment, mais qui ne s'y arrête pas. Mais du coup, ce qu'on peut trouver là, c'est plutôt des pistes pour aider à ouvrir le cœur à décider, à se décider. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas rencontrer quelqu'un sans avoir à décider quelque chose, pour nous-mêmes. Voilà, parce que, c'est-à-dire... Une rencontre qui ne nous transforme pas, c'est pas une rencontre. Voilà. Une rencontre mondaine, voilà, bon, voilà, très bien. On a appris quelque chose de plus, éventuellement on a gagné du fric, on a gagné un peu de pouvoir, bon, voilà, etc. Mais ça, c'est pas une rencontre, ça. Voilà. Une rencontre, c'est une rencontre qui... ce qui est vraiment une rencontre, c'est quand le cœur s'ouvre à quelque chose, à la vie, quoi, à la vie partagée entre nous, voilà. Ça, c'est une rencontre, et qui nous transforme, c'est-à-dire, parce que, avant de rencontrer cette personne-là, bah, je ne pensais pas que c'était possible de vivre comme ça, voilà. Puis depuis, bah oui, je pense que c'est possible de vivre comme ça, et non seulement je le pense, mais je vis différemment. Et ça, on a tous comme ça, alors évidemment, on ne fait pas ça tous les jours, mais on a tous des rencontres comme ça qui ont changé notre vie. Et ça, c'était des rencontres. Alors, c'est plutôt ça, quoi. C'est une lecture qui, pour réfléchir et prier personnellement sur ce type d'expérience qu'on a pu faire de rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors, on peut aller, évidemment. L'idée, c'est de favoriser une rencontre intérieure et personnelle avec celui dont il est parlé dans ce livre, avec Jésus, le Christ, voilà. C'est d'entendre son message, voilà. Sa parole, d'entendre sa parole, pour moi, aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être autre chose que j'entendrai, mais aujourd'hui, où je tourne ces pages-là, c'est cette parole-là qui me touche et qui va m'aider à vivre pendant quelques heures au moins, voilà. Bon, ben voilà, se laisser toucher par... Et puis, alors, il y a un dernier thème... que je crois très important aujourd'hui, qui est abordé à la fin, les quelques chapitres sur la résurrection, c'est je le résume comme ça, c'est de dire, voilà, Jean présente l'événement de la résurrection, premièrement, comme quelque chose qui n'est pas représentable. C'est-à-dire, ça ne peut pas entrer dans... Alors, on peut en faire des images, mais aucune image n'est adéquate à la vérité de ce dont il parle. C'est-à-dire, c'est pas représentable, la résurrection. C'est pas visible, voilà. C'est pas visible. Et là, il en parle comme quelque chose qui n'est pas visible, d'un événement qui n'est pas visible, mais qui transforme, qui remet de la vie là où il n'y en avait plus. Voilà. L'image que je prends, moi, c'est comme le vent dans les arbres. Voilà. Alors, le vent, le souffle. Alors, le souffle, le vent, Saint Jean, c'est un des thèmes, quoi, je veux dire. Hein. Mais il parle de la résurrection comme ça. C'est-à-dire, quelque chose qu'on ne voit pas, mais dont on voit les effets. Comme le vent dans les arbres. On ne voit pas le vent, mais on voit qu'il fait bouger les arbres. Voilà. On dit, tiens, il y a du vent. Ce n'est pas qu'on voit le vent, c'est qu'on voit des arbres bouger. Alors là, on dit, tiens, il y a un vivant. Ce n'est pas qu'on voit la résurrection, mais c'est qu'on voit quelqu'un vivre, et d'autres vivre aussi. Alors, ça fait comprendre, ça fait toucher quelque chose, ça fait aborder un rivage, comme je dis dans le dernier chapitre. C'est le rivage de la vie qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la vie dont nous vivons. Nous ne voyons pas la vie. On ne peut pas prendre notre vie et puis la mettre devant nous, bien voilà, c'est ma vie. Voilà. Ça, c'est quand on est scout et qu'on a un petit machin, on a une vie qu'on s'accroche à la ceinture pour que les copains ils nous piquent notre vie. Bon. Cette vie-là, on la voit. Mais la vraie vie, la vie dont nous vivons, n'est pas visible. Elle n'est perceptible que par le fait que nous vivons, par les effets de sa présence en nous. Voilà. Nous voyons des vivants, nous ne voyons pas la vie dont ils vivent. Voilà. Eh bien, la résurrection, la manière dont le raconte Saint Jean, en différents récits, c'est de faire percevoir ça. C'est que qu'est-ce que produit cette résurrection invisible? Elle produit de la fraternité. C'est-à-dire le signe visible de la résurrection, c'est la construction d'une fraternité concrète, réelle et visible, celle-là. Voilà. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, on perçoit ça quand on fait attention à la manière dont il écrit, dont il raconte. Le seul endroit où Jésus emploie le mot « frère » dans l'évangile de Jean, dans le sens « c'est mon frère », ou ma sœur, bon, c'est dans un récit de la résurrection. « Va dire à mes frères, » il dit ça à Marie-Madeleine, « va dire à mes frères que je suis vivant. » Et donc, eux aussi, ils sont vivants. « Et mon père, c'est votre père, et notre, etc. » Voilà, c'est-à-dire, « va dire à mes frères. » C'est le seul endroit dans l'évangile de Jean où le mot « frère » apparaît avec ce sens-là. La fraternité qui se reconnaît, qui se partage concrètement entre des êtres humains, c'est le signe visible que le Christ est ressuscité. Et ça, ce n'est pas des pieuseries, c'est du boulot à faire.